Sur Radio Campus Tours, auditeurs, auditrices, vous écoutez La Méridienne. Nous sommes exactement le 17 octobre et chose promise, chose due, émission spéciale sur la SISM, S-I-S-M, semaine d'information sur la santé mentale. Donc vous avez entendu depuis 15 jours au moins des spots, des témoignages sur nos ondes de personnes qui parlaient de leur parcours et de leur vie avec leur santé mentale, quelle qu'elle soit. Donc, pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir en studio avec moi 3 et bientôt 4 invités. Donc, autour de ces micros, il y a Cécile, bonjour.
Bonjour.
Il y a également Sylvie, bonjour.
Bonjour.
Et il y a Laura, bonjour.
Bonjour.
Alors, peut-être tout d'abord, rappeler que ces témoignages qui ont été diffusés sur nos ondes dans le cadre de la SISM, il s'agit d'un partenariat avec l'UNAFAM. Mais c'est quoi d'ailleurs l'UNAFAM ?
Alors, l'UNAFAM, ça s'appelle l'Union nationale des familles et amis des personnes malades ou handicapées psychiques. Cette association fête ses 60 ans cette année. Et c'est une association qui fonctionne avec des délégations. Donc c'est une association nationale avec des délégations départementales. Et on œuvre à soutenir les familles qui ont un proche avec une maladie psychique. Et donc, tous les ans, on propose des actions autour de la SISM. Et la semaine d'information santé mentale, ce sont des rendez-vous annuels au mois d'octobre avec des thèmes un petit peu particuliers. Donc cette année, le thème, c'est à tous les âges de la vie, la santé mentale est un droit. Et ce que l'on voulait mettre en avant au niveau de la SISM cette année, l'UNAFAM, on voulait mettre le droit à la parole pour les personnes qui ont un trouble psychique. C'est quelque chose qui est important pour nous.
Alors peut-être encore quelques mots pour présenter l'UNAFAM. En fait, qu'est-ce qu'on peut y faire si parmi nos auditeurs, certaines personnes sont intéressées par les questions de santé mentale? Si on devient bénévole à l'UNAFAM, qu'est-ce qu'on peut faire?
Donc, la mission première de l'UNAFAM, c'est l'accueil des familles, puisque ce sont des maladies qui sont très compliquées. Les familles sont souvent seules pendant plusieurs années avant d'oser chercher de l'aide. Donc on accueille les familles, on leur propose des groupes de parole où elles peuvent un petit peu déposer toutes leurs difficultés et leurs souffrances à vivre au quotidien avec le proche, puisque c'est souvent compliqué. On défend les droits des usagers. Ce sont les familles qui défendent les droits des usagers dans les établissements de soins, dans les structures comme la MDPH, à l'UDAF. Et on propose aussi des formations. Tous les bénévoles qui sont à l'UNAFAM sont formés sur les activités de l'UNAFAM et sur les missions qui leur sont confiées. Ceux qui font de l'accueil ont une formation spécifique. Ceux qui font de la représentation ont une formation spécifique. Et on propose aussi des formations à tous les usagers. On aura au mois de novembre une formation sur les formations troubles psychiques qui sera ouverte à tous. C'est gratuit. Les gens viennent sur la journée, une psychologue explique les différentes particularités des troubles psychiques sur la matinée. Et l'après-midi, c'est un de nos bénévoles qui raconte un petit peu les différentes structures d'accueil et de soins que l'on peut trouver sur le département. Donc on en fait tous deux fois par an une journée d'information troubles psychiques.
Alors, ça peut être par exemple, parce qu'il est question de défendre les droits des usagers, ça peut être dans quel contexte, par exemple, où une personne peut solliciter l'UNAFAM pour être aidée, accompagnée dans des démarches dans...
Exactement. On a des personnes qui siègent à la MDPH, donc la maison du handicap. C'est cet établissement-là qui attribue, par exemple, l'AAH, l'allocation adulte handicapé. Et pour écrire le dossier de façon conforme pour qu'il soit reçu favorablement, on peut organiser un rendez-vous avec la personne qui siège à la MDPH pour avoir un soutien pour la rédaction du dossier.
Peut-être qu'on peut dire aussi que ce genre de dossier compliqué et difficile à faire. Et du coup,
c'est un dossier, je crois qu'il y a 4 ou 5 pages pour pouvoir avoir des droits. Et effectivement, c'est bien d'avoir un soutien très spécifique.
Est-ce qu'il y a des activités autres qui sont proposées par l'UNAFAM, en fait, des activités où, de loisirs ou des choses comme ça?
Alors, ce sont des choses qu'on avait en place avant le Covid et qu'on va remettre en place. On organisait des visites, par exemple, d'expositions. On donnait un rendez-vous. On organisait des randonnées pour que les gens puissent se retrouver avec leurs proches. Donc, c'est ce qu'on propose aux adhérents de l'UNAFAM pour sortir de l'isolement, rencontrer du monde. Donc, ça, ce sont des choses. Et puis, les groupes de parole s'organisent aussi des temps. Ça permet de créer du lien. Et ils se retrouvent aussi, puisque les groupes de parole, c'est une fois par mois. Et certaines personnes qui participent à un groupe de parole se retrouvent aussi en dehors de ce temps d'échange.
Donc, ça permet de créer du lien aussi, de rencontrer d'autres personnes. Alors, peut-être pour des auditeurs que ça intéresserait, mais... causerait pas, qu'on peur des groupes de parole. Est-ce que vous voulez peut-être les unes et les autres expliquer c'est quoi un groupe de parole, comment ça se passe, c'est où, voilà, ce qu'on peut-être on peut imaginer quelqu'un qui est anxieux, du coup qui a peur en fait d'aller dans un groupe comme ça. Qu'est-ce que vous aimeriez en dire?
Alors les groupes de parole, en fait, les personnes n'y rentrent pas comme ça d'un seul coup. Ils ne sont pas plongés dans un groupe. Il y a un premier accueil donc, pour qu'ils puissent exprimer leurs problématiques. Et ensuite, il y a un deuxième accueil avec l'animateur, le bénévole référent du groupe de parole, pour pouvoir avoir un petit peu ces difficultés, ces appréhensions, pour pouvoir permettre d'entrer dans le groupe de parole. Il y a aussi des règles de fonctionnement dans ce groupe de parole qui sont exposées lors du deuxième rendez-vous, ne serait-ce que d'être attentif aux autres, de respecter la parole, le secret de ce qui se passe dans ce groupe. Hein. Et ce sont des groupes de parole qui sont sur 2 à 3 ans. Hein. On estime qu'au bout de 2-3 ans, on peut faire autre chose au sein de l'association et permettre à d'autres d'avoir accès à ce groupe de parole.
Et ça, c'est important aussi de dire que si on est accompagné dans un groupe de parole, si on participe à un groupe de parole, on donne du temps aux gens aussi pour prendre la parole, pour rencontrer les autres, pour avancer. Et donc, c'est-à-dire qu'on ne va pas larguer les gens comme ça du jour au lendemain.
Non, ils ne sont pas largués. On essaie de répondre. En fait, parmi les bénévoles, on a chacun nos qualités, nos expériences. Donc, on a la possibilité en fait, d'accompagner ou de parrainer les d'abord adhérents et ensuite, on espère, autres bénévoles dans des projets. On a au niveau de la délégation, on rédige par exemple un bulletin sur l'activité de l'association. Donc s'il y a des personnes qui ont des qualités d'écriture, ils peuvent rejoindre cette équipe-là. On présente régulièrement le handicap psychique au sein des établissements de formation comme les IPSI ou l'ITS. Donc là, ce sont d'autres qualités. On peut inviter des futurs bénévoles à venir avec nous pour faire ces présentations. On peut, donc les représentations, ça ce sont des choses, il y a des cliniques sur le territoire, il y a des hôpitaux, donc plusieurs possibilités de donner du temps à l'association.
Alors, on en sait déjà plus sur l'UNAFAM. Avant de continuer cet échange, je vous propose d'écouter de la musique, parce qu'on a de la chance, on a des invités qui nous ont préparé une playlist. Alors, dans les propositions, il y avait Stromae, une chanson qui s'appelle L'Enfer. Alors, pourquoi avoir envie de nous faire écouter cette chanson-là?
Alors, cette chanson, en plus, elle a débarqué directement sur un média. Il l'a présentée lors d'un journal. Il raconte, en fait, sa difficulté et son vécu de sa maladie psychique. Stromae passe des périodes de dépression sévère. Et il l'illustre très bien. Ce qu'il vit avec cette souffrance-là.
Alors, on écoute Stromae dans La Méridienne. On se retrouve tout de suite après.
Je suis pas tout seul à être tout seul, ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais combien on est, beaucoup, tout ce à quoi j'ai déjà pensé, dire que plein d'autres y ont déjà pensé, mais malgré tout, je me sens tout seul. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire, ces pensées qui nous font vivre un enfer, ces pensées qui nous font vivre un enfer. Est-ce qu'il y a que moi qui ai la télé et la chaîne culpabilité, mais faut bien se changer les idées, pas trop quand même, sinon ça repart vite dans la tête, et c'est trop tard pour que ça s'arrête, c'est là que j'aimerais tout oublier. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire, ces pensées qui me font vivre un enfer, ces pensées qui me font vivre un enfer. Et je sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement, réfléchir, c'est bien le problème avec toi. Tu sais, j'ai mûrement réfléchi, et je sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement, réfléchir, c'est bien le problème avec toi.
C'était Stromae, l'enfer sur Radio Campus Tours. Vous écoutez toujours La Méridienne. C'est toujours l'émission spéciale pour les sismes. Voilà, on parle de santé mentale aujourd'hui dans La Méridienne avec mes invités Cécile, Sylvie et Laura. Alors Sylvie, si je dis rétablissement, qu'est-ce que vous aimeriez dire ?
Mais le rétablissement, c'est ce qui nous a motivés pour la sisme là, cette année, c'est-à-dire de donner la parole aux personnes qui sont dans un parcours de rétablissement. Qui dit parcours de rétablissement, c'est surtout de reprendre le contrôle de ses symptômes, de reprendre le contrôle de sa vie. C'est très, très important. Ce cheminement, il n'est pas linéaire, on veut bien le concevoir comme ça. Et ça s'appuie surtout sur plusieurs principes. Le premier principe, c'est l'espoir. Savoir qu'on n'est pas enfermé complètement dans sa maladie, qu'on peut sortir, retrouver un équilibre. Ça, c'est un premier moteur pour le rétablissement. On peut aussi parler de responsabilité personnelle. Longtemps, les personnes qui souffraient de maladies psychiques étaient guidées, téléguidées par les équipes médicales. C'était les médecins qui décidaient de ce qui allait se passer, de ce qu'on prenait, de ce qu'on allait faire. Le rétablissement, la personne reprend les rênes de sa vie et travaille avec les équipes, avec les médecins, avec son soutien, son entourage personnel. On parle aussi d'éducation. Forcément, ce parcours-là, il faut apprendre, reprendre les capacités à vivre. Il faut apprendre les choses sur ce qu'on vit, sur la maladie. Ça ne vient pas par hasard. Il y a des choses à bien repérer dans son quotidien. Il y a les moments de la vie qu'il faut aussi gérer. Donc ça, ce sont toute la partie éducative qu'il faut s'approprier. Il y a le plaidoyer pour soi-même. La maladie psychique est très connotée négativement. Et donc là, il faut arriver à dépasser ça et être un peu, on va dire, droit dans ses bottes et à dire j'ai cette problématique, je vis avec et je vis bien même. Je peux vivre bien avec une maladie psychique aujourd'hui. Et ça ne peut passer que par le soutien des autres, l'entourage, les professionnels et aussi le soutien aux autres. D'être ensemble et de se battre là-dessus, c'est quelque chose de nouveau et on arrive à le faire maintenant. Et c'est ce qui a motivé le groupe de personnes avec qui on travaille là. On était une dizaine à travailler sur ce projet-là. Prendre la parole en public, ça reste compliqué, hein, mais on y arrive et on va y arriver de plus en plus.
Merci Sylvie. Alors, je me tourne vers Cécile. Je crois, Cécile... vous vouliez témoigner.
Oui. Alors, je souhaite vous parler des différences de prise en charge aux différentes étapes du suivi psychiatrique. Je suis suivie depuis les années 2000, mais un diagnostic ne vient qu'en 2010, personnalité borderline. Au niveau du suivi hospitalier, on voit le psychiatre une à deux fois par semaine. La prise des traitements, quant à elle, se fait à heure fixe avant les repas, à 16h selon les cas et au coucher vers 21h30-22h. Le personnel infirmier est assez disponible. Les interdictions de sortie du service dans certains cas, les obligations liées à la vie en communauté sont des contraintes plus ou moins difficiles à vivre. Une fois sorti d'hospitalisation, on voit le psychiatre environ une fois par mois, on récupère le traitement à la pharmacie et on tente de le prendre à heure aussi régulière que possible. Bien évidemment, c'est plus souple qu'à l'hôpital, il y a plus de risques d'oubli. On se retrouve également seul à gérer les moments de moins bien et les solutions pour y faire face, alors, n'étaient pas forcément recommandables. On retrouve plus de liberté, les rituels du quotidien. Quand le médecin part à la retraite ou en libéral, on n'a pas forcément envie de recommencer à zéro et se livrer à un nouveau médecin. S'ensuit une période sans suivi ni traitement, je ne le nie pas. À une période de ma vie, j'étais incapable de me faire hospitaliser quand j'avais une grosse crise. Je pouvais même arrêter mon suivi et mon traitement. J'ai connu une hospitalisation plus longue en juin 2020 jusqu'en décembre 2022 suite à des hallucinations auditives et à des idées délirantes. À ma sortie, j'ai été suivie par une psychiatre que je vois une fois par mois ou plus, c'est selon, par des infirmières libérales qui viennent chaque matin me donner mon traitement pour la journée, et par l'association Cordia qui suit des personnes atteintes de handicap physique ou psychique à l'aide d'une équipe pluridisciplinaire. La visite quotidienne des infirmières m'oblige à être là tous les matins. C'est aussi un confort car cela sécurise la prise du traitement. Je n'ai pas besoin d'aller à la pharmacie ni à stocker les médicaments chez moi. Cela limite le risque de mésusage. Avec l'équipe pluridisciplinaire, je suis aidée pour mes démarches sociales et administratives et j'ai un soutien régulier avec une infirmière et une psychologue. Cet été, avec ma psychiatre actuelle, j'ai accepté une hospitalisation suite à des voix que j'entendais, le temps d'ajuster les traitements et de laisser passer la crise.
Merci Cécile pour ce témoignage. Je crois que Sylvie veut ajouter quelque chose.
Oui, et donc là, tu racontes ton parcours. Et merci pour ce témoignage. Mais je crois qu'aussi, tu es en mesure maintenant d'avoir des projets plus sympathiques. D'où est-ce que tu reviens?
Alors, je reviens du Luxembourg où je suis allée passer une semaine en vacances. Donc j'ai pris au niveau du traitement, les infirmières m'ont laissé mon pilulier pour une semaine. Donc j'ai géré moi-même et je suis allée toute seule dans ce pays que je connais bien pour vivre, voilà, pour retrouver la force.
Voilà, et ça me fait plaisir, c'est super.
Est-ce que Cécile, tu veux nous raconter qu'est-ce que tu as vu au Luxembourg? Qu'est-ce qu'il y avait à voir, à faire? C'était comment?
Ben c'est une très belle ville qui a beaucoup de nature au centre-ville, en fait. C'est dans une vallée, donc c'est très vallonné. Mais la vieille ville est en contrebas, et on voit les fortifications de la ville haute, on voit la vallée de la Pétrus. C'est très reposant, c'est très... cette nature au sein même d'une ville, c'est des paysans.
La nature, voilà, nature en ville, si jamais la ville de Tours nous entend. Merci à nouveau, merci encore pour ce témoignage et je pense qu'on peut faire une nouvelle pause musicale parce que la radio c'est aussi de la musique. Donc là on va écouter Oshi, je te pardonne même. C'est un choix de nos invités à nouveau. Pourquoi on écoute Oshi ?
Parce qu'Oshi, elle raconte les difficultés de la vie quotidienne. La vie, c'est pas forcément tout beau, tout rose. Il y a des moments où c'est très compliqué. Et je pense qu'Oshi, dans plusieurs de ses titres, elle raconte bien ça. Et c'est pour ça que je l'aime beaucoup.
On écoute Oshi, je te pardonne, sur Radio Campus Tours. C'est toujours la Méridienne.
Depuis ses lèvres contre les tiennes, j'ai comme un poison dans les veines. Y'a mon âme coincée sous les verres, et dans ma bouche un goût amer. Je rêve seule avec mes acouphènes. T'as mis mon cœur en quarantaine. Mon amour tu m'as mise à terre, aveugle et sourde et sans repère. Te pardonne pour mon cœur fracassé. Je te pardonne pour tout ce que tu m'as fait. Je te pardonne d'avoir tout niqué. Je te pardonne. Je voudrais oublier, je me sens conne. J'aurais pas pensé, j'abandonne. Je mets tout de côté, tu m'étonnes. Que l'amour fait crever, je te pardonne. Je te pardonne, je te pardonne. La nuit est longue, je me sens si seule. Mes rêves s'effondrent, ils tirent la gueule. Notre lit devient comme un cercueil. Mes pleurs se fondent avec la table. La nuit est longue, je me sens minable. Mes rêves s'effondrent et je pète un câble. Dans notre chambre, je vois même le diable. Je te pardonne pour mon cœur fracassé. Je te pardonne pour tout ce que tu m'as fait. Je te pardonne d'avoir tout niqué. Je te pardonne, je voudrais oublier, je me sens conne. J'aurais pas pensé, j'abandonne. Je mets tout de côté, tu m'étonnes. Que l'amour fait crever, je te pardonne. Je te pardonne, j'en ai vu assez. Les couleurs, j'ai broyé bien plus que du noir sur la palette de la douleur. Toutes les variantes du désespoir. Y'a toi qui peux me consoler, pourtant c'est toi qui m'as blessé. C'est plus pareil, je nous vois flou. Je sens son odeur sur tes genoux. Je suis comme un soldat fusillé. J'ai pas vu l'ennemi arriver, mais j'ai appris à prendre les coups. Je compte bien me battre jusqu'au bout. Je te pardonne, on va tout reconstruire. Je te pardonne, je sais qu'on va guérir. Je te pardonne, je peux pas faire autrement. Je te pardonne, ça sera beau comme avant. Je te pardonne, accroche-toi à mes bras, abandonne. Tous les manèges à trois, je m'en tamponne. Du temps que ça prendra, je te pardonne. Je te pardonne, je te pardonne. Je te pardonne. Je te pardonne, je te pardonne, je te pardonne.
C'était « Oh, si je te pardonne » sur Radio Campus Tour 99.5 FM. C'est la Méridienne avec moi en studio pour parler santé mentale. Il y a Cécile, Sylvie et Laura. Alors, je dis handicap invisible.
Le handicap invisible, ben je vais peut-être laisser la parole à...
À Laura ?
Oui.
Qu'est-ce qu'on peut dire du handicap invisible ? C'est très compliqué parce qu'effectivement, on a nos deux pieds, nos deux jambes. On a l'impression qu'on fonctionne à peu près normalement. Mais en fait, c'est, le regard des autres est extrêmement difficile parce qu'on est très vite jugé en se disant qu'on est feignant, qu'on n'a pas envie ou des choses comme ça. Alors que pour nous, c'est extrêmement compliqué de fonctionner normalement, d'être... debout, de suivre une conversation, de gérer le bruit, la lumière, c'est pas simple à gérer.
Je rajouterais que il faut imaginer. Moi, j'ai côtoyé beaucoup de personnes qui ont ce qu'on appelle une schizophrénie. C'est une maladie un peu spécifique puisque les personnes ont des phénomènes extraordinaires, j'appelle ça. C'est-à-dire, soit ils ont des hallucinations, ils voient des choses qui, dans des écrans souvent, ou ils ont des voix dans les oreilles. Et ils conjuguent leur quotidien, notre quotidien, avec ces phénomènes-là. Et ça demande une énergie terrible puisqu'il faut bien penser... quand ils arrivent à fonctionner, parce que je parle d'une vie ordinaire, d'une maladie, de la schizophrénie, hein, pas les périodes de crise où ce n'est pas possible, les jours ordinaires, ils sont en société et ils ont en parallèle soit des hallucinations dans les oreilles ou au niveau du yeux, des impressions qu'ils ont à gérer. Donc, ceux qui ont appris savent que c'est quelque chose qui a du spectre de la maladie. Et donc, il faut qu'ils fassent un tri permanent entre ce qu'ils ont dans notre société avec nous et ce qu'ils ont dans leur phénomène en plus. Donc ça, ça demande une énergie, puisque ce n'est pas comme ça de temps en temps. C'est 24-24 pour certains. Donc, c'est épuisant. Et donc, ces phénomènes-là, les personnes n'en ont pas forcément conscience. Donc, les gens en face, quand ils sont, par exemple, à demander un renseignement à une administration, hein, et donc, il faut qu'ils soient attentifs à ce qui se passe et pour pouvoir avoir des informations. Et en même temps, ils ont cette radio à côté dans l'oreille pour laquelle ils se disent « Bon, ça, il faut que je mette de côté, il faut que je reste concentré et focus sur ce qu'on est en train de me dire. » Et donc, ça, c'est pour une information qui va durer 5 minutes. Mais il faut penser, quand il fait ses courses, il a je crois que c'est... dans les témoignages, il y avait une jeune fille là, qui présentait cette difficulté-là. Et pour pouvoir se séparer de ces phénomènes-là, elle avait une astuce, c'était elle jouait de l'élastique. Comme ça, son attention était concentrée sur l'élastique. Et du coup, elle peut faire ses courses parce que du coup, elle chasse ces phénomènes-là avec un élastique sur le poignet. Voilà, donc c'est des astuces comme ça qu'on arrive à mettre en place et que les gens ne s'en rendent pas compte. Mais c'est au niveau de l'énergie, ça me pompe et ça use. Voilà ce que je souhaitais dire. Et moi, je trouve que c'est extraordinaire, hein, la force que ça nécessite.
Alors, on avait fait appel aussi à nos auditeurs pour poser des questions auxquelles vous souhaitez ou pas, d'ailleurs, répondre. Donc, par exemple, il y avait une question de Judith. Donc là, ça portait sur le travail et donc elle demande si on a un problème psychique, est-ce que faut le dire à son employeur ou est-ce qu'il vaut mieux ne rien dire ? Voilà, est-ce que sa question, en fait, son souci, c'est de dire si je dis à mon employeur que j'ai tel handicap psychique, voilà, est-ce que ça peut avoir des conséquences ? Est-ce que je peux ne pas être embauchée, être renvoyée ? Est-ce que si je le dis, les gens vont me regarder bizarrement ? Donc elle pose cette question-là. Alors peut-être que vous avez envie de répondre.
Alors. Moi, je peux répondre là déjà. J'ai accompagné des personnes vers l'emploi. En fait, l'employeur, ce qu'il souhaite, c'est qu'il ait quelqu'un qui soit en mesure de faire la tâche demandée. Donc, si on lui parle d'entrée de troubles psychiques, certains employeurs, ça va leur foutre la trouille. Donc, ça risque de poser un frein. Donc, ce qui est important, c'est de pouvoir démontrer d'abord qu'on peut faire le travail. Et une fois qu'on a démontré qu'on peut faire le travail... on peut parler de difficultés pour pouvoir avoir, par exemple, des aménagements pour supporter, par exemple, si on peut avoir des aménagements d'horaire, si on a besoin de se reposer un petit peu plus, pouvoir décaler les horaires ou avoir des temps partiels, si c'est possible. Voilà. Mais l'employeur, il faut avoir en tête que ce qu'il demande, c'est que la personne peut assurer le travail demandé. Ça, c'est une première chose.
Donc en fait, faut être stratège, c'est-à-dire qu'il faut d'abord montrer qu'on sait faire le travail, qu'on est compétent sur son poste, et peut-être ensuite dire qu'on a telle ou telle difficulté. Et alors l'objectif, c'est de dire aussi qu'on peut aménager son poste de travail. Donc ça veut dire, parce que là, l'inquiétude, c'était de dire si je dis que j'ai un handicap psychique, est-ce que je peux me faire virer, en fait ? C'est ça la question de fond.
Après, il ne faut pas dire qu'on a forcément un handicap psychique. Un handicap psychique, c'est on peut avoir une maladie qui fatigue et on a besoin d'aménagement d'horaire. Pour illustrer ça, je vais vous donner juste une illustration concrète. J'ai accompagné quelqu'un qui a fait de la mise en rayon dans un magasin. Et le premier poste qu'on lui a proposé, c'était de mettre en rayon dans les rayons frais. La mise en rayon dans un rayon frais, il faut donc remplir le rayon, mais en même temps, il faut surveiller toutes les dates de fraîcheur pour mettre en avant ce qu'on doit consommer. Donc ça fait double tâche. Et ça, c'était très compliqué pour cette personne-là parce que ça lui demandait une attention encore accrue. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a pu expliquer à l'employeur en disant « mettre en rayon, ça ne me pose pas de problème ». En plus, c'était un gars qui était assez costaud. Et donc, on lui disait « si vous pouvez lui trouver un poste où il y a juste à mettre en rayon, il n'y a pas de problème de date, il n'y a pas de problème ». Et donc, comme il était costaud, on l'a mis dans les liquides. Donc, ça veut dire transporter des bouteilles et des packs d'eau et des choses comme ça. Et donc, il a fait son remplacement et il a même soulagé d'autres collègues. Voilà. Donc, il faut bien avoir conscience, en fait, de quelle est ma difficulté et qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour pouvoir travailler longtemps.
Et alors, après, est-ce qu'il y a aussi un cadre légal ? De se dire, on ne peut pas renvoyer une personne sans motif valable. Donc là, la loi protège aussi une personne qui a un handicap, quelle qu'elle soit ? De se dire, on ne peut pas renvoyer quelqu'un pour un motif comme ça ?
Je vais renvoyer sur la tâche confiée et la capacité à faire. Il faut que, parce que si jamais elle était restée dans le rayon frais et que régulièrement, elle ne fait pas son travail correctement. Donc il faut vraiment être attaché à la mission confiée. Et si on assume la mission, à ce moment-là, on est un travailleur lambda. C'est le droit du travail classique.
Et alors, toujours sur l'idée du travail, il y a des choses qui s'appellent le RQTH, par exemple. Oui. Donc ça, est-ce que vous voulez expliquer ce que c'est ?
Donc la reconnaissance de travailleurs handicapés, tous les employeurs maintenant ont l'obligation d'employer des personnes en situation de handicap. Si elles ne le font pas, elles payent une taxe. Donc il y a cette incitation à travailler, à employer des travailleurs handicapés. Et
En coulisses, on entend arriver Steven.
Voilà. Je continue. Voilà. Donc, la situation de travailleur handicapé, ça permet de répondre aux obligations du droit du travail et de ne pas payer la taxe. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut. Et alors, en ce qui concerne le handicap psychique, quand les personnes sont reconnues handicapées, il n'y a pas besoin d'aménagement de poste. C'est plus des aménagements d'horaires, c'est plus des aménagements de tâches qui sont mis en place. Ça peut être des positionnements. Moi, j'ai souvenir d'avoir accompagné une personne autiste. Elle a besoin d'être dos à un mur parce qu'il faut qu'elle puisse contrôler tout son environnement. Donc, c'est la position du poste pour cette personne-là qui est importante. Parce que quand elle, il ne faut pas qu'elle ait à surveiller derrière, sinon ça serait trop stressant. Donc, le fait d'être son poste de travail dos à un mur, c'est quelque chose de sécurisant. Voilà. Donc, ce sont des choses qu'il faut réfléchir. Et les services d'accompagnement maintenant à l'emploi sont en mesure de débriefer un petit peu toutes ces différentes spécificités pour accompagner l'employeur.
Merci. Alors, je me tourne à nouveau vers Laura, parce que je vois qu'il y a un témoignage là aussi. Alors, est-ce que Laura, tu veux...
Oui, alors moi, je vais parler un petit peu de ma difficulté à... Enfin, ce que j'ai rencontré à être maman. Alors, pour moi, ça a commencé en 2003. J'avais 24 ans, après deux traumatismes. J'ai décompensé. Je me suis retrouvée dans un état dissociatif important avec des difficultés majeures de fonctionnement. Mais mon état s'était amélioré. En 2004, j'ai eu mon fils. Après ma grossesse, par contre, tous les symptômes sont revenus en bien pire. J'avais des hallucinations visuelles et auditives. J'avais mon corps qui ne fonctionnait plus normalement et je ne pouvais plus sortir de mon lit. J'ai donc été hospitalisée à de multiples reprises pendant ces 20 dernières années. Ce qui a été très dur car je devais laisser mon fils à chaque fois. J'ai raté beaucoup de choses avec lui, surtout les premiers mois, les premiers pas, des choses comme ça. Mais le premier diagnostic n'est tombé qu'en 2012, donc longtemps après. Je faisais un stress post-traumatique majeur et en 2019, une bipolarité. J'ai dû composer donc, entre élever mon fils et les crises qui me poussaient à rester alité des semaines. Alors, les premiers mois de sa vie, pendant les hospitalisations, il était gardé par sa tante et ses grands-mères car son papa travaillait beaucoup. Mais bon, la vie a fait que je me suis séparée de son papa et je me suis donc retrouvée seule avec lui pendant un temps. Par la suite, bon, j'ai rencontré son beau-père. J'ai dû donc composer pendant tout ce temps où j'étais seule avec lui. Alors, j'ai eu de la chance car mes proches ont toujours été présents, très positifs et ont toujours cru que je me stabiliserais. Ils ont toujours eu confiance et que je m'en sortirais. Ils se sont donc renseignés beaucoup sur les pathologies. On a donc décidé de très tôt de parler de la maladie sans tabou à mon fils, de lui expliquer le système de crise, de lui expliquer que même quand j'étais au plus mal, ma vie n'était pas en danger, qu'il s'agissait d'une maladie comme une autre. Et donc mes proches prenaient le relais quand il le fallait. Il a donc grandi comme ça avec une maman qui allait bien par intermittence, mais toujours très entourée. À l'adolescence, ça a un peu changé. C'est lui qui venait me motiver quand ça n'allait pas, en me disant qu'il fallait que je tienne bon et que ça allait passer. Il a été mon pilier pendant toutes ces années difficiles, un moteur de vie. Je me suis stabilisée en 2019 grâce à des rencontres avec les bons médecins, de longues thérapies et le bon traitement. Aujourd'hui, c'est un jeune adulte dont je suis très fière. Il a une très grande intelligence émotionnelle et il se destine à aider les autres, bizarrement. Je pense que ce qui nous a aidé à traverser cela, c'est que mes proches n'ont pas stigmatisé la maladie. Et il n'y a pas eu de tabou qui a été mis à aucun moment dessus.
Merci Laura pour ce témoignage. On va avoir une nouvelle pause musicale. Alors là, cette fois-ci, c'est Grand Corps Malade, Ben Mazoué et Gaël Faye. On a pris le temps. Alors pourquoi cette chanson-là ?
Eh bien, déjà, j'adore les trois artistes. Donc quand ils ont fait une chanson ensemble, c'était chouette. Et puis c'est vraiment une chanson qui parle de se poser, quoi, de temps en temps faire une pause sur la vie et de regarder un petit peu ce qu'il y a autour de soi.
Alors on écoute ça sur Radio Campus Tours, c'est toujours La Méridienne.
J'ai pris du temps pour mon métier, j'ai pris du temps pour mes chansons. Ce qui allait pas, j'ai pris du temps pour le changer. J'ai pris du temps, ça prend du temps d'essayer. C'est tellement rare quand ça marche. C'est tellement rare que quand ça marche, faudra battre le fer tant qu'il est chaud. Le fer tant qu'il est chaud. Parce que l'enfer, c'est pas d'échouer, c'est de pas tout faire pour essayer. Alors j'ai tout fait. Jusqu'à étouffer. Ah ouais, j'ai tout fait là. J'aimerais souffler.
Je me souviens de ce rendez-vous pris. La promesse d'une pause, d'un répit. Du repos pour mon esprit. Comme une bulle au milieu du bruit. Au milieu de la furie. Mais quelque part un coin de paradis m'attendait comme une feuille blanche. Une feuille blanche.
Là, au milieu du monde, pour que la vie réponde. On a pris le temps. Et là,
et là, et là,
au milieu du monde,
et là, et là,
allongé les secondes,
et là, et là,
on a pris le temps.
J'ai pris rencard chez le docteur, chez le coiffeur, chez le véto. Hier j'ai éteint très tard, aujourd'hui je me suis levé tôt. J'ai pris ma douche, j'ai pris la mouche, j'ai pris la route, mes affaires. J'ai pris le train, le taxi, j'ai trop pris, j'ai pris cher. J'ai pris mon fils par la main pour sa fêter son tournoi. J'ai pris le courage à deux mains, le mal de tête c'est pour moi. J'ai pris mes doutes enfouis sous les t-shirts dans ma valise. J'ai pris le tourbus dans une ambiance que souvent j'idéalise. J'ai pris du retard dans ma journée, dans mon planning, dans mon sommeil. J'ai pris de l'avance sur la fatigue, mais pas vraiment sur le réveil. J'ai pris une allure, une cadence, un rythme entêtant, mais c'est vrai. J'ai pas pris le temps depuis longtemps.
Je me souviens de ce rendez-vous pris, la promesse d'une pause, d'un répit, du repos pour mon esprit, comme une bulle au milieu du bruit, au milieu de la furie. Mais quelque part un coin de paradis m'attendait comme une feuille blanche, une feuille blanche.
Et là, au milieu du monde, pour que la vie réponde, on a pris le temps. Et là,
et là, et là,
au milieu du monde,
et là, et là,
allongé les secondes,
et là, et là, et là,
on a pris le temps. Et là,
et là, et là,
au milieu du monde,
et là, et là,
pour que la vie réponde,
et là, et là, et là,
on a pris le temps. Et là,
et là, et là,
au milieu du monde,
et là,
allonger les secondes, on a pris le temps.
Le temps, c'était Grand Corps Malade, Ben Mazoué et Gaël Faye sur Radio Campus Tour. C'était le choix de Laura. Voilà, donc on poursuit cette émission La Méridienne où il est question de santé mentale. Et avec moi en studio, Cécile, Steven, Sylvie, Laura. Alors peut-être de nouveaux témoignages. Steven, je crois que vous vouliez témoigner vous aussi.
Oui, bah, bonjour, je m'appelle Steven, j'ai 42 ans, je suis britannique. Je vis seul dans mon appartement depuis 20 ans. Depuis plus de 20 ans, j'occupe mon temps libre comme je peux. Je gère les moments difficiles, je passe beaucoup de temps à lire, à écouter de la musique, regarder des films. J'adore le foot, j'ai une grande culture britannique. Je suis championnat anglais, c'est offensif, ça joue vite. Et j'ai un réseau d'amis avec qui je passe du temps de temps en temps. Ma maladie m'éloigne d'eux quand je suis sorti. Ma maladie m'a éloigné d'eux. Je suis un peu sorti de leur vie pendant quelques années. Mais le temps que je me rétablisse, ils ont fait leur vie de côté. Donc on continue à se voir de façon amicale, mais beaucoup moins souvent. Alors, j'ai fait des allers-retours à l'hôpital, plusieurs essais de traitement. J'ai pu vivre chez moi. Les premières années ont été compliquées, chaotiques. Je me suis mis à boire, je faisais la fête. Il y a eu des dérapages. Mais aujourd'hui, j'ai trouvé un équilibre. J'ai mis une distance avec l'alcool et les bars. Il me reste à gérer quelques moments difficiles, des épisodes dépressifs. Je reste chez moi, j'écoute de la musique plutôt sombre. Ma paranoïa, je doute de mes amis, je pense qu'ils vont me mettre de côté, qu'ils vont me blacklister. Je suis vie. Quand je prends des claques dans la gueule, je me remets en marche et je me remets en cause grâce à mon expérience. Et je voudrais remercier le professeur Gaillard et le professeur Elage, plus Nicolas Didier, de m'avoir aidé pendant les moments où ça allait vraiment pas et que personne d'autre voulait me soutenir, donc voilà. Merci.
Merci Steven pour ce témoignage. Alors là, je me tourne vers Sylvie. Je crois qu'il y a un absent dans ce studio, mais qui, cela dit, a confié un témoignage.
Voilà, je voulais déjà juste remercier Steven parce que je parlais de la difficulté de vivre au quotidien. Hein, l'important, c'est de garder le cap malgré les moments chaotiques. C'est très, très important. Là. Et Steven, il illustre bien avec la vie qu'il passe, les périodes très, très sombres et très compliquées. Eh bien, dans sa tête, il garde le cap. Bon, il souligne effectivement qu'on ne fait pas ça tout seul, qu'il faut du monde autour. Et là, maintenant, ben, il est dans des démarches où on dit, ben, voilà, c'est compliqué, mais on vit et on peut faire des choses. Et il est avec nous là aujourd'hui. Et il a tenu à être là aujourd'hui. Donc, merci Steven
de rien.
D'être là. Une autre personne qui était censée être avec nous aujourd'hui et qui travaille. Donc depuis 3 semaines maintenant, et donc elle souhaitait, c'est Frédéric en fait qui fait partie de notre groupe de travail, et lui souhaitait témoigner de des difficultés de la relation dans les familles. On a parfois la chance d'avoir une famille compréhensive, mais il y a des fois
c'est pas toujours le cas.
Des familles où c'est très très compliqué d'avoir des relations. Frédéric, il a fait plusieurs tentatives de suicide, même des tentatives de suicide assez graves parce qu'il a fait des comas. Et dans sa famille, ses gestes n'étaient pas compris. Il a des enfants qui n'ont pas non plus compris son geste, le désespoir qui l'ont amené à passer à l'acte. Et il n'a jamais eu non plus l'occasion de s'expliquer vraiment sur ce qu'il traversait. Et pour sa famille, c'est « Allez, tu bois un coup, ça va passer mieux. » La philosophie de la famille, c'était comme ça. Et ce qu'il regrette, c'est que sa famille non plus ne cherche pas à s'informer sur sa maladie. Ils ne connaissent pas, il a une maladie bipolaire. C'est une maladie où on a des épisodes où on peut avoir des dépressions, c'est-à-dire des idées noires jusqu'à passer à l'acte, où on peut avoir des périodes où on est très exalté. On a 36 000 idées à la minute. On vit avec une Ferrari dans les mains et on fonce droit. Et des fois, on fonce droit au mur. Donc, c'est une maladie qui se gère. Hein. Les traitements sont efficace, mais c'est très très compliqué, ça demande une discipline quotidienne c'est ce qu'il regrette, c'est de ne pas avoir eu le soutien en fait de sa famille, de ses enfants qui lui auraient évité comme ça de faire peut-être des tentatives ou de sombrer vraiment. Et ce qu'il souhaite, c'est que la maladie psychique soit connue du grand public, qu'il y ait une large diffusion à la télé, par exemple, et que les maladies psychiques soient plus acceptées. Donc ça, c'est son cheval de bataille. Et là, actuellement, ben, il travaille. Il est très courageux parce qu'il il fait de l'entretien dans des bureaux. Il a des horaires très compliqués. Voilà, donc on lui souhaite bonne chance dans son emploi. Et puis, ben, on continuera quand même à travailler ensemble dans les projets de l'association. Oui.
Oui, alors moi, je continue avec les questions des auditeurs. Donc, on a Élise qui dit « J'étais une adolescente anorexique, j'ai 30 ans, et mes parents me voient toujours comme un enfant. » Donc, en fait, qu'est-ce qu'elle peut dire ou faire pour que ses parents ne la considèrent plus comme un enfant.
Alors, c'est très difficile d'être reconnu comme un adulte pour certains parents. Il y a des parents qui sont toujours avec une image de l'enfant plus que de l'adulte. C'est pas forcément lié à la maladie.
Oui, je pense pas non plus. Je pense pas non plus. Je pense qu'effectivement, comme disait Sylvie, il y a des parents qui considéreront toujours leurs enfants comme étant des enfants. Mais c'est vrai que la maladie, en plus, je pense qu'ils vont toujours avoir besoin de la protéger. En fait, c'est instinctif. Après, qu'est-ce qu'elle peut faire? Leur parler, en fait, peut-être. tout simplement, sûrement qu'elle l'a déjà fait d'ailleurs, mais non, pas de conseil particulier.
Après, c'est le temps, je pense, qui va faire le oui. travail quand elle va vivre, qu'ils vont la voir vivre. C'est ça qui va les rassurer. C'est faire baisser l'inquiétude. Alors, souvent, c'est oui, un le... parcours long, mais il faut qu'elle soit sûre d'elle-même et qu'elle... Je pense que c'est l'exemple, sa vie à elle qui va les rassurer, eux, en tant que parents. Et leur dire que bah, si elle vit, c'est qu'ils ont été parents et bons parents.
Mais après, sur les... parce que tout à l'heure, vous parliez des groupes de parole donc, qui existent à l'UNAFAM. Est-ce qu'il y a des groupes de parole qui sont spécifiques justement pour les familles? Ou est-ce que des fois, c'est les personnes qui peuvent amener leur famille parce que peut-être ils n'arrivent pas à expliquer, à dire ce qu'ils ressentent, comme disait Frédéric dans son témoignage, que des fois, ce n'est pas facile dans le... de parler à sa famille, de faire comprendre certaines choses. Du coup, est-ce qu'il y a des groupes de parole qui sont pour les familles?
Alors, ben, peut-être. Alors, l'UNAFAM, ce sont des groupes de parole pour les familles uniquement. Hein. Ce ne sont pas des groupes de parole pour les personnes qui ont un trouble. Et alors, peut-être qu'elles peuvent inviter ses parents à rencontrer des associations de famille, donc, qui permettront un petit peu d'avoir d'autres informations, d'être rassuré sur ce qui se passe pour leurs proches. Donc, si elles peuvent aller à l'UNAFAM et puis rencontrer et le fait de... Quand les parents vont être amenés à dire à d'autres familles ce qu'ils vivent avec leurs proches, ils vont pouvoir se rendre compte que leur proche va bien. Si elle vit, si elle a... ce qui motive, nous, notre association, c'est quand on reçoit les familles, c'est comment vivent leurs proches? Est-ce qu'ils ont accès à une vie autonome? Est-ce qu'ils ont accès à leurs droits? Est-ce qu'ils ont accès à leur logement? Parce que le handicap psychique peut être très invalidant pour certaines personnes. Et donc, ce qu'on milite, c'est le droit dans tous les domaines. Donc, le droit à avoir un revenu, le droit à avoir un logement, le droit à vivre. Hein. Donc, c'est ça qu'on mesure avec les familles qu'on reçoit. Et donc, si pour cette famille-là, je ne sais plus comment s'appelle l'auditrice, mais si c'est pour sa famille, une fois qu'on a fait le point avec eux et que leur proche a accès à de l'enseignement, a accès à une autonomie, ils seront rassurés en fait sur la capacité de leur fille, à mon sens. Hein.
Alors, il y avait une autre question sur le coût, en fait, de dire est-ce que ça coûte cher de prendre soin de sa santé mentale et est-ce qu'il y a des aides pour ça?
Alors, ça coûte pas cher du tout, c'est même pris en charge quand on va dans le public. La problématique actuellement, c'est surtout le manque de place, les listes d'attente. Actuellement, il faut plusieurs mois pour avoir accès à une prise en charge psychologue. Il faut plusieurs mois pour avoir accès à un psychiatre dans le public. Et même maintenant, je pense que dans le privé,
c'est compliqué aussi d'avoir des
rendez-vous. C'est compliqué d'avoir des rendez-vous. Donc ça, c'est une grande difficulté. Et je suis assez sombre par rapport aux possibilités d'accès aux soins, parce que il manque des psychiatres, il manque des places dans les hôpitaux, dans les cliniques. Les psychologues commencent maintenant à être un petit peu pris d'assaut aussi.
Ouais. Avec le dispositif là qui avait été mis en place, mon psy. Ou je sais comment ça s'appelle, où il y avait 8 séances remboursées et je crois qu'ils sont sursollicités avec ça.
Oui, alors c'est fait partout maintenant, je crois que c'est au niveau national, on peut avoir droit à des prises en charge par un psychologue remboursées. Donc ça c'est, il faut avoir un courrier de son médecin traitant qui demande la prise en charge par un psychologue. Et là, on a accès, on peut être soutenu pour une dizaine de rendez-vous, gratuitement. Après, il faudra, si jamais le travail n'est pas, l'accompagnement n'est pas terminé, ça sera à la charge de la personne. Mais de ce fait-là, les psychologues sont aussi un petit peu surbookés. Et l'accès aux soins en psychiatrie actuellement est très compliqué. J'ai pas pris de nouvelles du BAPU, là, du service médical de l'université. Il y a 4 ans, c'était encore accessible. Il y avait un psychologue au niveau des soins universitaires. Et je crains malheureusement que ce phénomène-là soit aussi présent dans les services de soins au niveau de l'université. Dans les écoles, il y a aussi des psychologues, mais elles sont très très peu nombreuses. Au niveau où est-ce qu'on retrouve des psychos, au niveau de l'emploi, dans certaines entreprises maintenant, il y a aussi des interventions de psychologues. Il y a des phénomènes, là, au niveau psychologique, on a avec les attentats, il y a ce qu'on appelle les cellules d'urgence qui peuvent être déclenchées. Donc là, c'est... Ce qui est intéressant, c'est que maintenant, on a le droit de dire qu'on a besoin d'aide. Et donc, cette ouverture-là, il faut pouvoir y répondre. Et la problématique maintenant, c'est l'accès aux soins. Il n'y a plus assez de médecins, il n'y a plus assez de psychologues. Et les raisons d'être mal dans sa peau, on les a à la radio tous les jours. Voilà, le problème est posé. Je n'ai pas de réponse.
Il y a quand même un mot qui est revenu plusieurs fois dans cette émission, que j'ai envie de répéter, c'est espoir. Mmh. Vous l'avez dit tous plusieurs fois, et tant mieux. Et donc, je vous propose d'écouter une nouvelle musique. On va écouter Clara Isée, Le monde s'est dédoublé. Parce qu'elle aussi, elle parle d'espoir dans cette chanson.
Ce matin, il est arrivé une chose bien étrange. Le monde s'est dédoublé. Je ne percevais plus les choses comme des choses réelles. Le monde s'est dédoublé. J'ai pris peur, j'ai crié que quelqu'un me vienne en aide. Le monde s'est dédoublé. J'ai accueilli un ami qui m'a pris dans ses bras et m'a murmuré tout bas. Regarde derrière les nuages, il y a toujours le ciel bleu azur qui lui vient toujours en ami te rappeler tout bas que la joie est toujours à deux pas. Il m'a dit prends patience, mon ami prends patience, vers un nouveau rivage. Ton cœur est emporté, l'ancien territoire t'éclaire de ses phares, t'éclaire de ses phares. Ce matin, il est arrivé une chose bien étrange. Le monde s'est dédoublé. J'ai senti le temps se fondre un instant sur les visages mêmes. Le monde s'est dédoublé. Vos corps que je percevais hier encore dans leur exactitude ont perdu leur densité. Rappelez tout bas que
la joie est toujours à deux pas. Il m'a dit prends patience, mon ami prends patience, vers un nouveau rivage, ton cœur est emporté, l'ancien territoire t'éclaire de ses phares. Regarde en dessous de la nuit, il y a toujours le jour qui pose ses lumières sur un coin de la terre, te rappelant tout bas que la joie est toujours à deux pas. Je te dis prends patience, mon ami prends patience, vers un nouveau rivage, ton cœur est emporté, l'ancien territoire t'éclaire de ses phares. Regarde derrière les nuages, il y a toujours le ciel bleu azur qui lui vient toujours en ami, te rappeler tout bas que la joie est toujours à deux pas. Il m'a dit prends patience, mon ami prends patience, vers un nouveau rivage, ton cœur est emporté, l'ancien territoire t'éclaire de ses phares, t'éclaire de ses phares.
C'était Clara Isée sur Radio Campus Tour 99.5 FM. Oui, c'est toujours la Méridienne. On parle de santé mentale. Alors, avec moi en studio, il y a toujours Cécile, Steven, Sylvie et Laura. Alors là, je me tourne vers vous, chers invités, parce que cette émission va bientôt toucher à sa fin. Alors, santé mentale, qu'est-ce que vous voudriez dire pour conclure cette émission ?
Eh bien, sa santé mentale, ça touche tout le monde, en fait. Tout le monde est concerné par la santé mentale, puisque c'est se faire du bien, se faire du bien dans la tête. Et puis, personnellement, moi, quand j'ai besoin du sport, j'ai besoin de... je pratique du tennis de table, je nage en écoutant de la musique. Donc, je fais des kilomètres, enfin, des centaines de mètres, voire les kilomètres. Et c'est comme ça que je me ressource. Et toi, Steven, comment est-ce que tu te fais du bien ?
En écoutant beaucoup de musique, que ce soit très expérimental, à des trucs un peu plus accessibles. Et j'aime beaucoup lire, j'aime beaucoup regarder des films sur Arte. Et j'aime bien aussi, je suis assez sociable, aller chez les uns et les autres. Comme j'ai pas mal d'amis.
Ok, merci.
Moi, je suis un petit peu comme Steven aussi. Je profite beaucoup de mes amis. Je fais pas mal de bénévolat aussi, ça m'aère, ça me permet de sortir de la maison, notamment une compagnie de théâtre. Sport, pas trop. C'est pas trop mon truc. Mais voilà, beaucoup, j'essaye de sortir au maximum de la maison.
Et toi, comment est-ce que tu te changes les idées ?
Moi, je fais du tir à l'arc. C'est une discipline que j'ai découverte il y a un an et demi à peu près. Donc, je me suis inscrite en club cette année. Je regarde beaucoup la télé aussi, des séries policières principalement. Ça me change les idées. Je vois ma sœur aussi régulièrement, qui a un soutien régulier et stable. Et je vais revenir au Luxembourg. Je garde un lien avec le Luxembourg. Donc, j'écoute la radio en luxembourgeois ou je regarde les infos en luxembourgeois pour m'imprégner de ce pays.
D'accord. Merci, Mélissa, de nous avoir invités et donné la parole. Et toi, comment est-ce que tu prends soin de toi ?
Bon, alors déjà, merci à vous d'être venus dans ce studio. Je suis très contente d'avoir fait cette émission avec vous. Et j'en profite pour dire que si vous voulez revenir, vous êtes bienvenus. alors après, bon, je vais répondre aussi à la question. Je ne vais pas me défiler. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'aime faire ? Moi, j'aime beaucoup marcher. J'aime beaucoup marcher dehors, alors tôt le matin ou plus tard dans la journée, parce que j'aime beaucoup regarder la lumière. Donc dire, bah, tiens, à tel moment de la journée, la lumière n'est pas la même. En fonction de la saison, la lumière n'est pas la même. Et du coup, de regarder aussi les arbres, toutes les couleurs différentes, les ombres, les reflets, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi faire le chat, disons, en terrasse. Donc, je m'assois et puis je regarde les gens autour de moi, voilà, de me demander comment les autres vivent, qu'est-ce qu'ils racontent, comment ils vont. J'aime beaucoup faire ça. Et puis j'aime beaucoup aller au spectacle aussi, aller voir des spectacles, des concerts, du cinéma, des expos. Voilà, disons des choses où je peux m'émerveiller, où je peux apprendre des nouvelles choses. Et aussi parce que ça me permet de parler avec les autres, disons d'avoir un lien avec les autres, d'avoir quelque chose à échanger. De dire, bah, tiens, regarde, j'écoute cette musique, c'était bien, j'ai envie de t'en parler pour te la faire écouter. Ou alors, ce film, c'était incroyable. Ou regarde, quel bel endroit. Je pense que c'est ça aussi l'idée de dire, de partager avec les autres. Voilà, je pense que tout ça, ça me met en joie. Merci à nouveau à tous d'être venus dans cette émission, donc qui sera à réécouter sur notre site radiocampustour.com. Et puis on va se quitter en réécoutant le générique de l'émission, hein, rappelons-le, c'est Manu Dibango. Voilà, à bientôt.